vous êtes bien sur RFI, il est 20h30 à Paris.
Afrique Soir.
C'est avec vous Alexis Guilleux, bonsoir.
Bonsoir Anne Corpet, bonsoir à toutes et à tous. Des camions-citernes qui sortent de la raffinerie d'Angoté et une nouvelle page qui s'ouvre pour le Nigeria, le premier producteur d'or noir du continent, va pouvoir consommer son propre pétrole. Première bougie soufflée pour l'AES, l'Alliance des États du Sahel à un an, pacte sécuritaire et diplomatique entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et une volonté d'aller plus loin en matière économique avec cette volonté de créer une banque d'investissement et un fonds de stabilisation. Plusieurs grandes voix demandent la libération de Mohamed Bazoum, le président renversé du Niger, retenu dans sa résidence depuis plus d'un an. On entendra Achille Bembe, le philosophe camerounais, signataire d'une tribune dans le journal Le Monde. Le dossier d'Afrique Soir ce lundi consacré aux inondations au Tchad, 487 morts ces dernières semaines, le réchauffement climatique mis en cause, mais aussi l'urbanisation anarchique de certaines grandes villes comme la capitale tchadienne, N'Djamena. Et puis le patron du football africain optimiste, Patrice Motsepe, est en visite au Kenya pour visiter les futures enceintes du CHAN 2025 et de la CAN 2027. C'est un géant du pétrole qui ne pouvait pas consommer son propre or noir raffiné. Ce sera désormais possible au Nigeria. Les premiers camions-citernes ont pris la route, sortis de la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote. Alexis Bédu, c'est la fin de 8 ans de travaux et de plusieurs mois de négociations.
Jusque-là, le Nigeria importait la quasi-totalité de son pétrole, une anomalie corrigée avec la mise en service de la raffinerie Dangote, capacité de production à terme 650 000 barils par jour, ce qui permettrait d'approvisionner la totalité des stations essence du pays et même d'en exporter une partie. De quoi soulager la population. Les pénuries d'essence se sont multipliées ces derniers mois. La compagnie pétrolière nationale, la NNPC, s'engage donc à fournir 385 000 barils de brut par jour à la raffinerie Dangote. Elle sera en échange l'unique distributeur d'essence de la raffinerie. Le carburant de Dangote devrait être disponible à la pompe début octobre et malgré l'accord, les premiers camions-citernes à peine sortis, des bisbilles éclatent entre les deux parties. La NNPC annonce qu'il y aura une augmentation du prix de l'essence de 11%, une façon de mettre la pression sur les tarifs pratiqués par Dangote. La raffinerie répond et exhorte les Nigérians, je cite, à ne pas tenir compte de cette déclaration malveillante et à attendre une annonce officielle sur la tarification.
C'est aujourd'hui lundi 16 septembre, le premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans l'AES, un pacte de défense entre les trois États avec du partage de matériel par exemple. Alliance également diplomatique et le retrait commun de la CEDEAO, c'était en janvier. Prochaines étapes, la mise en place d'un passeport biométrique, d'une banque d'investissement ou encore d'un fonds de stabilisation. Des promesses avancées hier soir par le président malien de transition, Assimi Goïta, qui est également président en exercice de l'AES. Alors comment comprendre ces annonces? Écoutez l'analyse de l'économiste malien Modibo Mahoumakalou.
Plus de 60% du produit intérieur brut de ces trois pays dépend des importations et des exportations de deux, trois produits majeurs. Pour le Niger, l'uranium et le pétrole. Pour le Mali et le Burkina, l'or et le coton. Ces produits sont des matières premières qui dépendent des prix du marché international. Cela comporte une grande volatilité et cela a un impact majeur sur les recettes fiscales, sur les recettes d'exportation. Donc le fonds de stabilisation, quand les prix sont élevés, c'est de constituer un fonds d'épargne au cas où les prix vont chuter.
On comprend donc l'intérêt de ce fonds de stabilisation. Et pour ce qui concerne la banque d'investissement,
l'idée, c'est comment orienter les investissements vers les secteurs prioritaires, faire en sorte que les services sociaux de base qui rentrent dans le cadre du développement humain peuvent être améliorés. C'est d'abord une question de confiance. Je crois qu'il faut donner des gages aux investisseurs. Nous parlons non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi la lisibilité des politiques publiques.
L'économiste malien Modibo Mahoumakalou, ancien conseiller à la présidence, aujourd'hui directeur du cabinet de conseil IBS, joint par David Baché. L'un des pays de l'AES, c'est le Niger, où le président renversé l'an dernier, Mohamed Bazoum, est toujours retenu à la résidence présidentielle. Son immunité a été levée en juin dernier par la Cour d'État. Dans une tribune publiée hier dans le journal Le Monde, une trentaine de personnalités lancent un appel pour la libération de Mohamed Bazoum. Il dénonce une détention arbitraire. Parmi les signataires, on retrouve Denis Mukwege, Wole Soyinka ou encore le Camerounais Achille Bembe.
Mohamed Bazoum a été abandonné à ses geôliers. C'est la réalité. Et donc, la tribune a pour objectif de rappeler à la conscience du monde l'existence de ce tort qui est fait à quelqu'un qui n'a rien à faire en prison. Il y a son épouse, il y a lui-même, ils sont même pas en prison, ils sont retenus en tant qu'otages par les autorités nigériennes en l'absence de toute procédure juridique. C'est une affaire de principe, c'est une affaire très simple. Mohamed Bazoum n'a rien à faire en prison tant qu'il n'a pas été condamné par la justice de son pays. Et l'Afrique ne va pas se développer avec des pratiques de ce genre.
Achille Mbembe, le Camerounais signataire de cette tribune dans le journal Le Monde. Les États-Unis annoncent ce lundi avoir terminé leur retrait complet du Niger. Retrait qui s'est déroulé sans complications, fait savoir AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. Ce retrait avait débuté en mai, 2 mois après la dénonciation par la junte nigérienne de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Le Niger touché hier par 2 attaques dans les régions de Dosso et Tillaberi. La première concerne le poste de police et de douane incendié à Tounouga, situé à 25 km de Gaya, frontalière du Bénin et du Nigeria. La seconde attaque a touché une position de l'armée à Niaktiré, dans la préfecture de Torodi, dans le Gourma nigérien. Pas de bilan officiel, mais des sources civiles parlent d'une 15aine de morts. Un peu plus au sud, au Bénin, ce sont 2 policiers qui ont été tués dans l'arrondissement de Kompa à Karimama, dans le nord-est du pays. Les 2 policiers à moto revenaient d'une patrouille à Kompati, un village de l'arrondissement de Kompa, quand ils sont tombés dans une embuscade tendue par les terroristes. Pas de déclaration officielle sur cette attaque.
Afrique Soir sur RFI.
RFI, 19h37 à Tunis, où la campagne présidentielle bat son plein avant le scrutin du 6 octobre. Une campagne un peu spéciale pour Ayachi Zamel. L'industriel ne va pas pouvoir présenter son programme aux Tunisiens. En effet, le candidat est emprisonné pour présomption de faux parrainage. Le lancement de sa campagne s'est donc fait en son absence. Correspondance à Miras Willem.
Préparé à cette éventualité, son équipe a enregistré une série de vidéos avec lui, dont la première a été mise en ligne hier soir. Ce matin, au centre de Tunis, elle dénonçait des manœuvres judiciaires visant, selon elle, à réduire le candidat au silence. Pendant ce temps, Zouheir Marzewi, candidat nationaliste arabe qui a longtemps soutenu le président Kais Saied, était en déplacement dans la région défavorisée du Kef. Très actif sur les réseaux sociaux aussi, son équipe a mis en ligne des vidéos de lui au contact de concitoyens. Un candidat qui axe sa communication sur les problématiques sociales et économiques, alors que la Tunisie traverse une période difficile. Le troisième candidat n'est autre que Kais Saied. Lui s'est fendu d'un manifeste jugé clivant, voire violent par plusieurs observateurs. Alors qu'il y répète sa détermination de poursuivre sur la voie qu'il a tracée pour la Tunisie, il y recourt aussi à la terminologie désormais habituelle, corrompu, criminel, trahison, autant de termes qui, chez le président tunisien, servent à vilipender ses adversaires politiques. 3 autres candidats avaient été autorisés à concourir par le tribunal administratif, mais l'instance en charge d'organiser l'élection a décidé de passer outre cette disposition légale. Amira Suilem, Tunis, RFI.
De nouvelles discussions pour l'Est de la République démocratique du Congo. Nouveau round de négociations entre Kinshasa et Kigali. Cela s'est passé ce week-end à Luanda, en Angola. Objectif, relancer le dialogue entre les 2 voisins, alors que Kigali soutient les rebelles du M23 et accuse en même temps la RDC de faire de même avec le FDLR. À noter que la médiation angolaise a également présenté un compte-rendu de ses récents échanges avec l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, qui inclut justement des représentants du M23, l'AFC avec laquelle Kinshasa ne souhaite pas mener de discussion, Patient Ligodi.
C'est un sujet délicat qui met les autorités congolaises dans l'embarras, elles qui refusent toujours un dialogue direct avec l'Alliance Fleuve Congo, AFC. Après de nombreuses discussions, la présidence angolaise avait dépêché un avion pour rencontrer les délégués de ce mouvement. Selon plusieurs sources, 4 délégués de l'AFC se sont rendus à Luanda du 31 août au 3 septembre, où ils ont eu des discussions directes avec les conseillers du président angolais. Ces échanges ont porté sur les conditions et modalités des mises en œuvre du cessez-le-feu, initialement prévu pour rentrer en vigueur le 4 août, mais qui n'a toujours pas été respecté. Pour la FC, le processus de Luanda serait incomplet s'il ne prenait pas en compte ce qu'elle considère comme les problèmes internes à la RDC au-delà de la crise entre Kinshasa et Kigali. Le mouvement s'est dit prêt à aborder ces questions mais exige un dialogue direct avec les autorités congolaises. L'AFC pose comme préalable notamment l'annulation de la résolution de l'Assemblée nationale congolaise interdisant toute négociation avec ces mouvements. Ces délégués ont indiqué qu'il existe des causes profondes à cette crise qu'ils ne souhaitent révéler que lors de ces dialogues directs qu'ils réclament. Lors de la réunion de ce week-end à Luanda entre les parties congolaises, rwandaises et angolaises, certaines sources rapportent que les délégués de Kinshasa ont fermement rejeté ces propositions, réaffirmant qu'il n'est toujours pas question d'un dialogue direct avec l'AFC. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
L'ambassadeur congolais en Belgique, convoqué par le ministère des Affaires étrangères, Bruxelles proteste contre la condamnation à mort de Jean-Jacques Wondo, citoyen belge condamné vendredi dans le procès sur les événements du 19 mai dernier à Kinshasa, événement qualifié de tentative de coup d'État par les autorités congolaises. La RDC et ce nouveau drame de la navigation, 4 personnes sont mortes et une 40aine portées disparues après le naufrage d'une baleinière dans le sud-ouest du pays. 79 personnes ont pu être sauvées, a fait savoir le vice-gouverneur de la province du Kwango. On en parle depuis plusieurs semaines sur RFI, cette intense et meurtrière saison des pluies en Afrique de l'Ouest et centrale, Guinée, Niger, Mali, mais aussi le Tchad. 487 décès recensés au Tchad selon le dernier bilan donné vendredi par les autorités locales et les Nations Unies. C'est 146 morts de plus qu'une semaine plus tôt, François Mazet.
Le bilan des inondations continue d'enfler. 487 décès, près d'1 700 000 personnes touchées, 200 000 maisons détruites et 66 000 têtes de bétail perdues. Un chiffre important dans un pays où l'élevage est une activité économique et sociale centrale. Selon les autorités, 117 départements sur 120 sont victimes de ces inondations. La province la plus touchée en termes de personnes affectées est la région du Lac. Mais le bilan humain est surtout lourd dans les régions du sud du pays, l'Ogone oriental et Mayo-Kébi ouest en particulier, ainsi que dans celles de l'Est, le Wadaï et le Wadi Fira, où les populations ont été surprises par les très fortes précipitations auxquelles elles ne sont ni habituées ni préparées, nous expliquait récemment un expert des Nations Unies. L'ONU jugeait la semaine dernière nécessaire un plan de réponse de 97 millions de dollars américains, mais moins de 10% étaient disponibles, largement insuffisant pour venir en aide aux sinistrés, d'autant que les précipitations se poursuivent ces derniers jours, faisant craindre des crues encore plus importantes des principaux cours d'eau du pays.
Voilà, les précipitations qui continuent et la crainte de nouvelles crues, de nouvelles victimes. Et cet épisode d'inondation s'explique aussi par l'urbanisation mal adaptée. Ces villes qui se sont développées de manière anarchique, c'est le cas de la capitale tchadienne N'Djamena. C'est en tout cas une des raisons avancées par l'urbaniste Torob Ndilbé, enseignant-chercheur à l'université d'Abéché.
Le fondement de l'urbanisation, c'est d'anticiper en quelque sorte l'occupation du sol en ville. Et durant la période coloniale, cet état de choses était contrôlé parce qu'il fallait filtrer l'accès à la ville à travers l'obtention ou bien la détention de laissez-passer. Et aux indépendances, le verrou a été levé en faisant en sorte que l'arrivée massive des populations en ville n'ont pas été anticipée par les pouvoirs publics du Tchad indépendant. Donc les occupations ont commencé par se faire de façon spontanée, précédant ainsi tous les travaux d'urbanisme, d'implantation des réseaux d'évacuation d'eau qui devaient être implantés au préalable pour permettre à la ville de parer à toutes les situations d'inondation sous quelque forme que ce soit.
Parce qu'il y a beaucoup de terrains N'Djamena hein, qui sont en fait des terrains d'argile et de basse altitude hein, sous les eaux du fleuve.
Si vous voyez aujourd'hui sur la dizaine d'arrondissements, il y a seulement 2-3 qui correspondent effectivement à ce noyau colonial qui sont exempts de l'inondation. Tout le reste de la ville a été implanté sans pour autant tenir compte des zones qui pourraient être propices à l'urbanisation ou pas.
Alors un projet d'étude pour la création d'une ville nouvelle a été lancé en juillet et finalement abandonné au début du mois. Mais pour vous, si je vous comprends bien, la solution n'est pas de créer une ville nouvelle, mais plutôt de réformer l'existant.
La solution, de mon point de vue, c'est de procéder effectivement à des restructurations, de se servir peut-être de ce petit comité qui a été mis en place pour établir un diagnostic réel de l'existant, pour pouvoir effectivement étendre les réseaux d'évacuation, les réseaux d'assainissement qui n'ont pas été prolongés et permettre ainsi à la capitale N'Djamena de sortir un peu de cette situation déplorable où elle se trouve.
Et pour cela, il faut une volonté politique, il faut des lois et des règlements. Est-ce qu'ils sont suffisants, satisfaisants à l'heure actuelle au Tchad?
Je viens d'indexer là le permis de construire qui devrait être révisé pour inciter à l'utilisation des infrastructures vertes. Il y a également tout le pan de la planification urbaine qu'il faudra remettre sur la question, de telle sorte à donner d'abord, dans un premier temps, la parole aux techniciens qui feront des propositions qui seront validées par le pouvoir décisionnaire. Et une fois que ces textes de loi sont adoptés officiellement, il va falloir les appliquer. Le hic est qu'il y a des premiers documents de planification qui existent, n'ont pas totalement été appliqués. Il y a beaucoup de réserves, il y a beaucoup d'espaces verts qui ont été désaffectés et l'ensemble de ces petites choses ont concouru à déboucher sur cette situation déplorable à laquelle nous sommes confrontés actuellement.
L'urbaniste Tobro Dilbé de l'université d'Abéché au Tchad, il était l'invité de Nicolas Sûr dans Afrique Midi. En tout cas, la situation dans la région est critique. Le Conseil norvégien pour les réfugiés lance un appel urgent à la communauté internationale. Selon les chiffres de l'ONU, plus de 2 millions de personnes ont été touchées en Afrique par cet épisode d'inondation. Mais il faut plus d'argent car les populations les plus vulnérables subissent non seulement les conséquences des conflits armés, mais aussi désormais de plus en plus ces effets du changement climatique. Christelle Huré est responsable plaidoyer du Conseil norvégien pour les réfugiés sur l'Afrique de l'Ouest et centrale.
La priorité immédiate, c'est que les personnes puissent avoir un soutien en termes d'abri, de nourriture et de produits d'hygiène. Il y a beaucoup de personnes, bien sûr, qui ont tout perdu dans des zones déjà fortement impactées par les conflits. Et après, ça va être d'éviter que les maladies type le choléra ne se propagent. Une fois qu'on va avoir apporté de l'assistance alimentaire immédiate, il y a toute cette question de l'accès aux terres qui ont été inondées dans une région où, encore une fois, l'insécurité alimentaire ne fait qu'augmenter ces dernières années. Les populations sont déjà fortement touchées par l'impact du conflit, mais aussi l'impact du changement climatique, hein, que ce soit inondation ou sécheresse. Et donc, on sait que à moyen terme et bien sûr à plus long terme, ça va être aussi une priorité essentielle pour laquelle il va falloir beaucoup plus de financement sur la région.
Propos recueillis par Magali Lagrange, RFI, 18h46 à Bamako. Et c'est l'heure de l'actualité sportive en ce lundi soir avec une date à mettre dans vos agendas, vous amateurs de football. Le CHAN 2025 se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 1er au 25 février prochain. Annonce faite par le président de la CAF, Patrice Motsepe, en visite au Kenya. Il s'est rendu dans les futures enceintes qui serviront aussi lors de la CAN 2027. Gaël Lalex.
Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est un homme heureux. Après avoir visité les stades de Kasarani, de Niayo et celui en construction de Talanta, le voilà rassuré. Le CHAN et la CAN en Afrique de l'Est seront un succès. Les infrastructures kenyanes, du moins, seront prêtes.
Je suis très impressionné par les progrès que j'ai vus à Kasarani. Je suis très heureux des travaux de rénovation et d'amélioration. Je suis allé voir le stade de Talanta en construction, qui sera de classe mondiale. Je suis très reconnaissant au président William Ruto de son engagement, des moyens très importants qui sont mis dans l'amélioration des stades pour le CHAN de février prochain et la CAN de 2027. Une fois achevé, le stade de Talanta emploiera 5000 personnes et c'est magnifique.
Le temps presse pourtant pour terminer les travaux de Talanta. La CAF vient d'annoncer les dates du CHAN du 1er au 28 février pour son match de qualification à la CAN. Contre le Zimbabwe il y a 10 jours, l'équipe kényane a dû jouer dans le stade Mandela à Nambulé en Ouganda, faute d'infrastructures à domicile. Gael Alex Nairobi, RFI.
Le football avec une profonde déception pour un grand nom du ballon rond ivoirien. L'Africa Sport reste en deuxième division. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, a validé la montée en Ligue 1 de son concurrent l'ISCA, plus de 3 mois après la fin du championnat. Youen Gourlay.
Douche froide pour l'Africa Sport, l'un des clubs les plus populaires du pays devra finalement patienter pour son retour en Ligue 1. Le 13 septembre, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a rendu sa décision. L'ISCA monte en Ligue 1 et l'Africa Sport reste en Ligue 2. Le 14 juin, lors de la dernière journée de championnat, l'Africa Sport avait fait match nul 0-0 contre l'US Chologo, alors que l'ISCA avait battu le Yamoussoukro FC 2-0, ce qui lui avait permis de remporter le championnat. Mais la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, avait fait rejouer ce dernier match 2 semaines plus tard en raison d'erreurs d'arbitrage. L'ISCA avait finalement perdu 1-0 et l'Africa Sport avait remporté le championnat. Mais sur requête de l'ISCA, le TAS vient d'annuler la décision de la FIF de faire rejouer ce match. C'est donc le score du 14 juin qui a été validé. Une décision logique pour Ahmed Rasoul Koulibaly, le fondateur de l'ISCA.
Vous savez, l'article 42 du code disciplinaire qui porte sur les matchs à rejouer est très clair. Pour qu'un match puisse être joué, il faut qu'il n'ait pas pu être arrivé à son terme. Dans notre cas d'espèce, notre match contre le Yamoussoukro FC est arrivé à son terme. Nous n'avons donc pas du tout compris comment les commissions juridictionnelles de la fédération ont pu faire rejouer ce match. Donc nous étions sereins, nous savions que le TAS allait dire le droit. La justice a été rendue.
L'Africa Sport n'a pour le moment pas réagi à notre micro, mais a déclaré dans un communiqué qu'il marquait son opposition à cette décision et qu'il entreprendrait en urgence toutes les actions et procédures légales pour faire reconnaître ses droits. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Toute l'actualité du ballon rond à retrouver sur rfi.fr, rubrique Afrique Foot. Et retour en République démocratique du Congo. On vous propose cette semaine de partir à la découverte d'objets historiques sur le continent. Première étape donc en RDC, à la rencontre du masque Mwanapo, présent dans presque tous les musées du pays. Un masque issu de la tribu Tchokwe, symbole de fertilité, de sagesse de la femme, et notamment utilisé lors de cérémonies d'initiation des jeunes. Reportage à Lubumbashi, signé Denise Maéo.
Sculpté dans un bois, c'est le joli visage d'une jeune fille qu'on découvre sur le masque Mwanapo. On y observe des scarifications sous les yeux. Sa tête est recouverte de tresses traditionnelles. Pendant la période d'initiation des jeunes filles et garçons, ce masque Tchokwe joue le rôle de protection, explique André Mousseno, un membre de la communauté Tchokwe.
Puisque Mwanapo doit d'abord garder les gens qui sont dans l'initiation. C'est Mwanapo qu'on appelle aussi Natifa, qui signifie celle qui va amener à manger aux jeunes garçons et aux jeunes filles.
L'initiation est cette période qui marque le passage de la vie de jeune fille à l'adulte. Et à la clôture, il y a un spectacle de danse et de chant qui vise à enseigner aux initiés leur rôle et leur responsabilité en tant que femme dans la société, explique encore André Mousseno.
Mais qui vient en premier lieu? C'est Mwanapo. Ils viennent en dansant avec des cris de joie, avec des poudres, des kaolins. Le chef est là, il se met debout.
Aujourd'hui, le masque Mwanapo fait partie du patrimoine congolais. Un groupe d'élèves en visite au musée de Lubumbashi est guidé par Anne-Marie, chargée d'animation, le découvre.
Mwanapo, qui est là, quand on porte le masque, on se couvre tout le corps. Parce que les gens qui portent le masque, ce sont des personnes sacrées.
La réputation de ce masque va au-delà du secteur culturel. Depuis 1998, Mwanapo figure sur le billet de 50 francs congolais. Philippe Mikobi, directeur adjoint du musée de Lubumbashi, se souvient.
À la sortie de ce billet-là de 50 francs, je me rappelle bien, le gouverneur à l'époque de la Banque centrale avait expliqué, soi-disant, que si on a choisi le masque Mwanapo, c'est un masque de valeur, hein, au même titre que la valeur qu'on donne à la femme.
Une valeur que la société traditionnelle reconnaissait à la femme, affirme Patti Mastaki. Il est enseignant de l'histoire de l'art à l'Institut supérieur d'art et des métiers à Lubumbashi.
70% des œuvres d'art africaines sont des femmes qui sont représentées. Alors, on dit que la femme n'était pas valorisée, tout ça, mais pourquoi la femme était plus représentée? On ne savait pas le dire, mais on pouvait l'exprimer par des œuvres d'art.
Le masque Mwanapo est également apprécié des collectionneurs et des amateurs d'art du monde entier. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI.
RFI, 20h52, ici à Paris. Vos rendez-vous à suivre ce soir sur la radio du Monde. Accent d'Europe nous plonge dans un modèle économique en crise, celui de l'Allemagne. Volkswagen a annoncé qu'il pourrait fermer des usines dans le pays et l'emploi à vie s'est terminé pour les employés du premier constructeur automobile européen. C'est donc la consternation à Wolfsburg, une ville où un tiers des habitants travaillent pour Volkswagen comme Giuseppe Lopresti.
Dans la famille, quand je regarde autour de moi, j'ai encore 3 neveux, non 4, qui travaillent chez Volkswagen. Mais je sais aussi que la génération suivante, c'est-à-dire mes enfants, ne travailleront pas là-bas. Ils se sont orientés ailleurs. L'Allemagne, pays de l'automobile, c'est fini la vie en rose.
La fin de la vie en rose en Allemagne à découvrir donc à 21h10 heure de Paris dans Accent d'Europe, qui reviendra aussi sur les conséquences de la tempête Boris en Europe centrale. Et puis à 19h40, temps universel, grand reportage chez les super-héros du Nigeria. Les studios de création du géant africain tentent d'imposer leur figure au milieu des univers américains et japonais. Des super-héros créés à partir de récits 100% africains. Ayodele Elegba a lancé le studio nigérian Spoof Animation.
En Afrique, nous avons besoin de héros parce que nos jeunes n'ont personne à qui s'identifier. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être musclé, d'avoir des super pouvoirs ou une cape. Vous pouvez être un héros, une héroïne, pour quelqu'un. L'Afrique a besoin de héros, pas même de leaders politiques, mais des héros parmi nous. Des gens en qui vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez admirer et à qui vous pouvez dire « Je veux être comme cet homme, comme cette femme que vous connaissez ».
Super-héros Made in Nigeria, un grand reportage signé Moïse Gomis à découvrir donc à 19h40, temps universel. Et avant, le Nigeria, Afrique Soir, s'arrête au Sénégal avec Orchestra Baobab, le mythe du pays de la Teranga, 50 ans d'existence pour eux. On écoute leur dernier titre, Jambari. Voilà, c'est la fin de cette première édition d'Afrique Soir avec Jambari d'Orchestra Baobab. Vous restez avec nous sur RFI, le retour de l'info dans deux minutes avec le journal d'Adrien Delgrange. Très bonne soirée à l'écoute de la Radio du Monde.
Priorité santé.
Pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde, vous informer sur vos droits, vous éclairer sur la prévention, les traitements et les moyens d'y accéder, Priorité Santé vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Pour participer, contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce jeudi à 20h10 TU, RFI vous invite au concert.
Il y a concert et concert. Là, nous vous convions à celui de Youssou N'Dour, enregistré lors des JO de Paris à la Station Afrique. Nous vous faisons revivre ce grand moment de musique que nous offre la star sénégalaise.
Revivez le concert de Youssou N'Dour ce jeudi à 20h10 TU en intégralité et avec ventilateur.
Soyez à l'écoute de RFI, vous êtes nos invités VIP.
écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous. Ce lundi, sur RFI.
Pourquoi tant d'idées reçues sur le cerveau ?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Comment démêler le vrai du faux dans la profusion de discours souvent simplistes ou caricaturaux sur le cerveau ? Face à cette neuromania, le chercheur Albert Moukeiber, lui-même neuroscientifique et psychologue, nous remet les idées en place et le cerveau au bon endroit.
Autour de la question, avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 23h10 TU, sur RFI.